Vous êtes sur RTL.
Évidemment, ce que les auditeurs pensent de cette candidature de Éric Zemmour. Nous sommes avec Charles, qui habite Montpellier, qui est enseignant. Bonjour.
Bonjour.
Vous seriez prêt à voter pour Éric Zemmour ?
Absolument.
Eh bien, vous allez nous expliquer pourquoi. Le rappel des titres avec Amandine.
Et à la une, d'abord, la rentrée de Jean Castex. C'était l'événement ce matin sur RTL et le Premier ministre l'annonce. La troisième dose de vaccin anti-Covid sera administrée dès le 12 septembre dans les EHPAD. Pas question de revenir sur l'obligation de vaccination pour les soignants. Il y aura des sanctions. Nous ne lâcherons rien, dit le Premier ministre. Quant au pass sanitaire aux entreprises, il est urgent d'attendre. Concernant la situation en Afghanistan, Jean Castex annonce la fin de l'opération française de rapatriement pour demain soir. À ce jour, ce sont 2500 personnes qui ont été rapatriées en France, extraites de Kaboul. L'actualité, c'est aussi cette première médaille d'or française aux Jeux Paralympiques de Tokyo. Le cycliste Alexandre Léauté remporte la poursuite sur piste. Et puis à l'instant, Axel Bourlon décroche, lui, l'argent en haltérophilie. Côté météo, Peggy Broche, c'est pas très chaud dans le Nord, on va dire
non,
ça comme ça.
C'est clair, Amandine, parce que par endroit, c'est vrai, on perd 3 degrés par rapport à la veille. On est repassé sous les normales. C'est le cas à Lille, moins 3 par rapport à hier, plus que 19 degrés cet après-midi, 19 à Caen, 22 à Paris. Hier, il en a fait 25, 23 à Mulhouse, 26 à Lyon, 28 à Cognac et Montpellier, 30 degrés à Marseille, 31 à Toulouse et 32 à Perpignan comme à Nîmes. Côté ciel, ça reste gris au Nord, entre le Nord-Bretagne et la Franche-Comté. Quelques éclaircies seront possibles dans l'après-midi au nord de la Seine, mais surtout sur les Hauts-de-France. Ailleurs, ça reste encore très nuageux. Et puis du soleil sur toute la partie sud du pays. Le risque d'averse est très très faible, uniquement sur l'extrême nord-est. Attention parce que le vent se lève dans le sud. Mistral et Tramontane souffleront entre 50 et 70 km/h.
Bon, et nous sommes jeudi. Petite idée du week-end déjà ?
Oui, alors vendredi, déjà même type de temps. En gros, couvert le matin sur le nord-est avec quelques faibles averses. Elles seront plus rares l'après-midi sous un ciel un peu plus lumineux, même si les nuages seront quand même là. Ailleurs, de belles éclaircies et très beau dans le sud. Globalement, pour ce week-end, un temps nuageux avec quelques averses sur le nord-nord-est, entre nuages et éclaircies sur les deux tiers nord du pays. Et dans le sud, entre l'Aquitaine et la région PACA, là ce sera du soleil pour tout le monde, avec toujours un peu de vent dans le sud, le tout sous des températures stationnaires et un peu fraîches encore au nord, c'est vrai, une moyenne de 21. Oui, je sais, on devrait avoir 23 en gros à cette période de l'année et 25 dans le sud.
Merci Peggy.
Merci Amandine.
Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur RTL.
Éric Zemmour candidat, c'est une information d'RTL et de Marie Mollet. On en a parlé avec Robert Ménard, qui était très intéressant d'ailleurs, assez dur sur Éric Zemmour, puisqu'il expliquait en gros qu'il n'avait pas la personnalité, le charisme, l'ADN pour cela. Et ce n'était pas une question d'intelligence ou d'idée, c'était vraiment sa personnalité. Alors Charles, vous avez écouté, j'imagine, ce que disait Robert Ménard, et qu'il connaît bien parce qu'il l'apprécie, son ami. Quel est votre sentiment ?
Mon sentiment, c'est que je pense que cette candidature, je pense qu'elle peut, elle peut séduire beaucoup de personnes en France. Éric Zemmour a plusieurs mérites. Le premier, c'est de rester fidèle à ses idées, d'avoir un cap idéologique duquel il ne se départit pas, puisque contre vents et marées, il garde son cap malgré les critiques. Donc, il faut lui reconnaître déjà une certaine forme de courage. C'est pas le cas
mais
de tous les candidats.
Mais que dit-il de différent ? Par exemple, j'ai entendu Éric Ciotti ce matin qui assumait, disait-il lui-même, des propos de droite forte.
Oui.
La droite forte, c'était d'ailleurs le slogan de Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce qu'il dit de différent, selon vous ?
Éric Ciotti, Xavier Bertrand peuvent dire énormément de choses. Le seul problème, c'est qu'eux ont été aux responsabilités. Et que c'est bien facile, en période de campagne électorale comme ça, de se positionner dans une forme d'autoritarisme, de rigueur, etc. Mais ils ont déjà été aux responsabilités. Donc déjà, moi, je pense qu'ils partent avec un handicap vis-à-vis de l'opinion publique. Et il y a quelque chose aussi qui me vient à l'esprit, c'est qu'il y a beaucoup d'abstention. Et quelque chose me dit que tous les faits divers que les citoyens français connaissent qui les font souffrir dans leur chair, parce qu'il y a beaucoup de faits divers, il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de remise en cause en fait de toute forme d'autorité en France. Je pense que ces choses-là font que un candidat comme Zemmour peut justement bénéficier d'une réserve de voix importante auprès des abstentionnistes, parce que les gens souffrent en France, faut pas l'oublier.
Mais j'entends bien, alors je veux bien que Ciotti, que Wauquiez, que Valérie Pécresse aient été ministre de Nicolas Sarkozy, en tout cas certains ont eu des rôles importants, mais Marine Le Pen, elle n'a jamais été au pouvoir. Aujourd'hui, elle fait 26 points dans un sondage et elle reste d'ailleurs toujours très haut. Qu'est-ce qui fait, selon vous, et qu'un électeur irait davantage vers Éric Zemmour plus que vers Marine Le Pen? Et je réponds à votre argument, hein, puisque Marine Le Pen n'a jamais eu le pouvoir.
Tout à fait. Ben, je pense que Marine Le Pen, déjà, elle a un peu tergiversé, elle a un peu, comment dirais-je, elle n'est pas forcément restée fidèle à
elle n'est pas assez à droite, quoi. C'est ce que vous voulez dire. Pour vous, Zemmour incarne une forme de radicalité de droite qui vous plaît?
Écoutez, pardon. Excusez-moi. Moi, je pense que, en tous les cas, il a une colonne vertébrale, il est idéologique depuis très longtemps maintenant. Il fait de bons bilans, il fait des bons diagnostics. C'est quelqu'un qui ne bouge pas d'un iota. C'est quelqu'un qui reste fidèle à des idées. Contrairement
Mais il n'est que journaliste.
Candidats...
Lui, il n'a jamais été, il a rien exercé.
Absolument.
Il n'a rien exercé, mais... c'est pas un homme politique. À 60 ans, il déciderait d'une nouvelle carrière.
Tout à fait. Mais ce que contrairement à d'autres responsables politiques qui sont quand même, allez, on va le dire, assez opportunistes en fonction de ce qui se passe dans l'actualité, souvent, ben, ils retournent un peu leur veste, ou en tous les cas, ils gauchissent un tout petit peu leurs idées. Pour l'instant, moi, Zemmour, il me fait plutôt bonne impression en termes de cap et en termes d'idées. Et puis, je vais vous dire quelque chose. Entre une Marine Le Pen qui va avoir 12 millions de fiches pendant un débat, par exemple, de présidentiel, moi, je pense que quelqu'un comme Zemmour, il a plus de culture que tous les candidats réunis, que tous les postulants. Excusez-moi.
J'ai posé la question.
C'est quelqu'un qui a une connaissance parfaite de l'histoire de France. C'est quelqu'un d'érudit. C'est quelqu'un de brillant. Et je vois pas pourquoi on devrait se passer de ce type de candidature. Excusez-moi.
C'est un argument que j'entends souvent, le rapport à l'histoire. Et c'est vrai que il se trouve que je le connais, hein, puisque je le rencontre régulièrement et même tous les jours sur une chaîne de télévision. Donc je connais son fonctionnement. Et c'est vrai que c'est un confrère d'ailleurs agréable de ce point de vue-là avec lequel on peut travailler, parce qu'il y a beaucoup de culture, beaucoup d'intelligence chez lui. Hier, je posais la question déjà, et je vous la repose. C'est quoi être de droite, selon vous?
Écoutez, je crois que tout ça n'a pas de sens en réalité. Je crois que en fait à l'heure actuelle, si on veut vraiment changer les choses en France, il faut faire preuve, il faut prendre les bonnes mesures. Et c'est pas des mesures de droite, de gauche, tout ça est un peu caricatural, vous voyez. Je pense que il faut faire les bons bilans, les bons diagnostics et s'adapter. Vous avez vu tout au long de cette année, dans les auditeurs ont la parole, on n'a pas cessé de déplorer, par exemple, le fait qu'il y avait des actes qui étaient commis par des mineurs, qu'il fallait revoir l'ordonnance de 45, que les mineurs de 45 n'étaient pas les mêmes que ceux de 2020, 2021 et ainsi de suite. Je veux dire, il y a quand même des constats faciles, des constats évidents. Et moi, je pense qu'il y a des évidences qui nous sautent aux yeux.
Et qu'on ne les fait pas. On va marquer une première pause, Charles, et puis on va continuer. Vous êtes très nombreux à nous appeler sur Éric Zemmour. C'est vrai que si Éric Zemmour se présente, au moins pendant quelques jours et peut-être quelques semaines, il sera au cœur de la campagne présidentielle, parce qu'il pourra proposer des choses que les autres ne proposent pas forcément et sur lesquelles tout le monde devra réagir. 13h09, à tout de suite.
Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro. Plus. Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Et nous sommes avec Laurent Tessier.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. C'est le sujet qui vous fait réagir depuis le début de l'émission.
L'hypothèse paraissait farfelue il y a encore un an, elle a pris de l'ampleur au fil des mois.
Oui, Éric Zemmour sera candidat à la présidentielle. La décision est prise selon son entourage.
Le chroniqueur a bien l'intention de se présenter. Selon notre enquête RTL, il aurait déjà une centaine de parrainages.
Souhaitez-vous cette candidature d'Éric Zemmour à l'élection présidentielle? A-t-il raison de se lancer? Robert Ménard, le maire de Béziers, était l'invité de RTL Midi.
J'ai reçu un courrier, il n'y a pas plus tard que hier ou avant-hier, d'un conseiller municipal de Provence qui me dit qu'il est désigné officiellement pour expliquer et solliciter les parrainages nécessaires à sa candidature. Il parle de Zemmour et qui me demande ma signature que je ne lui donnerai pas.
Est-il pour vous un candidat crédible? Que pourrait peser sa présence à l'élection?
Alors en tout cas, pour l'instant, il ne fait pas exactement de miracle dans les sondages. Il a été testé à 5,5% des voix en juin. Mais qu'importe, nous disait l'un de ses amis, même s'il échoue, il créera un parti politique. Il briguera un mandat de député ou de député européen. C'est le début d'une carrière politique, croit savoir ce proche. Et dit-il, c'est un aller sans retour.
Sa candidature risque-t-elle d'avoir des conséquences pour le Rassemblement National, Les Républicains? Début juin, dans une vidéo sur YouTube, il reconnaissait qu'il fallait peut-être passer à l'action.
Je dois avouer, et ça fait 20 ans, ça fait 10 ans, ça fait 5 ans, le suicide français à 2014, vous voyez, tous mes livres commencent à dater, et je ne vois pas de politique qui mette en œuvre cela. Donc, du coup, je réfléchis à la suite.
Éric Zemmour, un candidat crédible ou non à l'élection présidentielle, Robert Ménard préfère l'avertir.
Je crois qu'il va au-delà d'un désastre. Moi, je crois qu'il fait une énorme bêtise, une énorme connerie, une énorme erreur.
Nous attendons vos avis dès maintenant au 3210 3210.
Et on va être avec Maël qui est étudiant. Bonjour Maël.
Bonjour Pascal, vous allez bien ?
Excellemment. Alors c'est intéressant d'avoir le point de vue de jeunes gens. Vous avez un 21 ans, vous êtes étudiant dans quelle matière, Maël ?
Et moi, on est en commerce, en contrôle de gestion à l'EDEC à Nice. Mmh. Donc rien à voir avec la politique. Pour autant, le sujet est tout à fait intéressant et pertinent parce que c'est quand même la première fois qu'on a un penseur politique qui se lance dans une campagne, pas des moindres, la campagne des présidentielles. À mon avis, c'est un choix qui est plutôt judicieux dans le sens où ça va apporter des idées que les politiciens qui sont là depuis très longtemps n'ont pas forcément. Pour autant, à mon avis, ça va brouiller aussi quelque part le message au niveau de l'électorat. Parce que on voit bien que la présidentielle, c'est un peu la fête au village, c'est chacun y va un peu de son ego et on se présente, on met une candidature, il faut 500 signatures, il y a quand même plus de 30 000 communes en France. Moi, je trouve que c'est un peu facile dans le sens où peut-être que Robert Ménard, avec qui je suis pas forcément d'accord nécessairement, a peut-être raison. C'est est-ce que c'est pas une erreur de se dire on peut pas se rassembler derrière un candidat qui nous ressemble un peu. Le souhait d'Éric Zemmour, c'est quand même derrière de briguer un poste de député ou député européen. Alors pourquoi ne pas y aller directement et pourquoi passer par la case présidentielle? Alors moi, je pose la question. Est-ce que c'est parce qu'il bénéficie finalement d'un soutien médiatique très fort? Il a quand même des grands comités de soutien derrière lui. Mais
il a aussi beaucoup d'adversaires. Les médias, là, il y a discussion. Hein, parce que vous savez, lorsqu'il va présenter sa candidature, je ne suis pas sûr qu'il reçoive dans les médias un accueil très favorable.
Mais vous savez, Pascal Pro, c'est un peu pareil pour tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde. Mmh. Au niveau des médias, vous le dites, c'est une certitude. Mais est-ce que
il y a des candidats quand même, parfois, on le dit d'ailleurs, qui sont les candidats des médias. Et ça peut exister.
Les candidats des médias, ben, Emmanuel Macron avait eu cette image qui lui collait à la peau en 2017. Tout dans la com. Mmh. C'est toujours le cas, à mon avis. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Pascal Pro, vous êtes capable de me dire, il y a un candidat dans la Ve République à la présidentielle qui a fait l'unanimité? Non, il n'y a pas de candidat, étant donné qu'il y a des
gens... Une fois qu'ils sont morts, parfois ils font l'unanimité, mais effectivement, de leur vivant, c'est plus compliqué.
Effectivement, Nicolas Sarkozy...
Non, là, vous avez raison, d'ailleurs, la candidature en 2007 de Nicolas Sarkozy, il y avait... c'est toujours difficile à expliquer et sans doute à commenter, mais il y avait un consensus autour de lui pour voir que le charme opérait entre les journalistes et Nicolas Sarkozy. Ça s'est refroidi pendant le quinquennat.
Ça s'est refroidi. Pour autant, est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas capable, je le disais, de mettre son ego peut-être de côté et de se réunir derrière des idées, des valeurs, même si on n'est pas d'accord à 100%
avec... Oui, mais il ne croit pas manifestement en Marine Le Pen. Ça, c'est... Il ne croit pas en Marine Le Pen. Ce qui m'intéresse, puisque vous avez 21 ans, vous êtes au contact de jeunes gens, est-ce que vous sentez... Alors, ce n'est qu'un micro-sondage, forcément, mais est-ce que vous sentez une appétence, un écho auprès des jeunes avec qui vous êtes, des paroles, des propos d'Éric Zemmour?
Moi, j'entends pas beaucoup parler d'Éric Zemmour. En revanche, vous posez la question à l'auditeur juste avant, par rapport aux propos de droite. Et moi, je trouve que les jeunes aujourd'hui se tourne finalement vers des idées de droite, des idées qui rassemblent, que ce soit autant sur la question de la souveraineté nationale, que ce soit la question d'une écologie plus pragmatique et non finalement trop idéologique. C'est plutôt, moi la question, j'ai envie de la renverser, c'est plutôt cette question de rassemblement derrière des idées qui sont claires. Mmh. On a une ligne claire à droite qu'il faut poursuivre, et c'est à mon avis l'image de clarté que le candidat qui sera élu aura. Et finalement, les électeurs, ils en ont un peu marre des personnes qui voyagent d'un parti à un autre. Emmanuel Macron, qui était quand même ministre de François Hollande, qui finalement crée son parti. Ou alors, on a quand même d'autres candidats qui flirtent soit avec La République En Marche et avec la gauche. À un moment donné, je pense qu'il faut être clair.
Il a au moins ce mérite, Éric Zemmour, voilà, d'être identifié, d'être clair. Merci Maëlle pour ce témoignage, et puis bonne rentrée, non pas scolaire, mais étudiantine. Nous sommes avec Olivier, je pense. Olivier, c'est Monsieur Facebook, hein, vous le savez, cette saison. Nous en sommes à son quatrième jour, il est toujours là, donc il assure la mission.
Il a du courage.
Il a du courage, c'est intéressant de lire ce que...
Un peu de talent, mais beaucoup de courage.
Vous savez ce que disait le général de Gaulle, généralement les gens intelligents n'ont pas de courage et les gens courageux ne sont pas intelligents. Ça ne concerne pas du tout. Mais le mot important, évidemment, c'est généralement. Bien sûr, parce que parfois, il y a des gens qui sont et courageux et intelligent.
Comme vous, Pascal.
Non, comme Olivier. Olivier, bonjour.
Bonjour, merci Pascal pour les compliments. Bonjour à tous. Sur nos réseaux sociaux, Christiane s'énerve. Comment peut-on laisser un personnage si clivant se présenter ? Je suis très inquiète. Guillaume nous écrit : je ne l'espère pas, à moins que ça ne soit qu'une stratégie pour donner une consigne de vote, mais j'en doute sérieusement. Pour Julie, s'il se présente, Éric Zemmour met un terme définitif à sa carrière. À l'inverse, pour Paul, ça va donner du relief au débat. Il a la capacité de renverser la tendance. Et enfin, pour Éric, je suis ravi de cette candidature, ça va permettre d'affaiblir l'électorat de Marine Le Pen.
Et puis les journalistes que nous sommes ont parfois un rapport ambigu avec Éric Zemmour, parce que c'est vrai qu'il sa parole, ses idées créent des bons débats, des débats clivants. Et dans l'opinion, effectivement, ça marche, mais dans les rédactions également. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui clive. Donc, forcément, ça crée de la polémique et ça peut être intéressant, de ce point de vue-là, d'échanger les idées. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
Ce qui est intéressant toujours, c'est la contradiction et pourquoi pas d'avoir des opposants. Majid, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous.
Vous habitez Valenciennes, vous êtes étudiant. Est-ce que vous voyez d'un bon œil cette possibilité de candidature ?
Éric Zemmour, c'est quelqu'un qui aime l'histoire. C'est quelqu'un qui aime les grands hommes qui ont fait la France, etc. On le sent dans ses analyses, etc. Et je pense que il a vu une fenêtre s'ouvrir du fait de sa popularité. Et je pense qu'il s'apprête à enfiler un costume qui est peut-être trop grand pour lui. Je pense que sur cette présidentielle, il va se casser les dents. Parce qu'il y a une différence entre dire de quelqu'un « oui, il a peut-être raison sur telle ou telle chose » ou « je suis tout à fait d'accord avec lui » ou « c'est quelqu'un qui va casser les codes », etc. Qui a pas sa langue dans sa poche. Mais le problème, c'est que entre dire « il a raison » et avoir l'intention de donner les clés de la France à quelqu'un, il y a une grosse différence. Et je pense que même du côté des gens qui sont d'accord avec lui, il peut faire peur. Il peut faire peur.
Pourquoi ?
Et c'est quelqu'un, on le sent dans ses analyses, souvent dans l'émission sur CNews, c'est quelqu'un qui a tendance à pousser ses analyses et ses réflexions souvent trop loin. Des fois même jusqu'au grotesque, en fait. C'est quelqu'un qui est un peu extrême. Et je pense que si demain il est aux manettes, ça peut l'imaginer, en tout cas demain aux manettes de la France, ça peut faire craindre des décisions parfois peut-être.
Est-ce que vous avez un exemple qui vous revient, par exemple, immédiatement en tête, ou une prise de position, une phrase, une formule, où vous le trouvez extrême ?
Bon, j'ai pas d'exemple précis, mais je me souviens par exemple qu'à la convention de la droite, il avait été un peu loin sur l'islam en comparant les musulmans aux nazis. Enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose de raisonnable, c'est pas quelque chose de.
Je suis pas certain. Alors, je me souviens pas précisément de sa phrase.
L'islamo-nazisme, pardon. Il avait comparé l'islamo-nazisme.
Je suis pas sûr quand même que il est. Alors certains l'ont peut-être interprété comme vous l'interprétez, mais il faudrait revoir ou réécouter la phrase qu'il avait dite. Je ne pense pas qu'il lui-même assumerait de comparer l'islam au nazisme, puisque...
J'ai plus les termes exacts. Il faisait une citation.
Puisqu'effectivement, ça ne se compare pas.
Il faisait une citation et on allait dans ce sens-là. Quoi. On allait dans le sens du... j'ai plus exactement la personne qu'il citait, ni la phrase exacte. Par contre, je pense que ce qui peut séduire les jeunes à droite, parce que paradoxalement, c'est quelqu'un qui va... justement, cette fougue qu'il a, elle va séduire plutôt un électorat jeune. Mais je pense pas qu'il soit capable de faire un gros score, et je pense qu'il va faire peur dans son propre camp.
Bah écoutez, merci Majid pour ce témoignage. Nous sommes restés là, hein, bien sûr, puisque vous pourrez réintervenir si vous le souhaitez. Nous sommes avec André également, André qui habite Toulouse et qui est plutôt un électeur de gauche. Bonjour André.
Oui, bonjour Pascal. Effectivement, je suis un peu orphelin de gauche. Aujourd'hui, la gauche, elle est gauchiste, végan, islamo-gauchiste, racialiste, féministe obtus. Je suis un peu comme Michel Onfray. Les intellos, la gauche a abandonné le peuple. Donc,
il y a une gauche républicaine quand même qui existe.
Oui. Bon, elle ne défend pas trop le peuple. Hein. Je ne sais pas où elle est.
Puis, mais c'est très intéressant ce que vous dites, parce que je suis persuadé qu'il y a beaucoup de... Il y a un espace pour cette gauche républicaine, universaliste. Et,
Oui, peut-être avec monsieur, comment il s'appelle là, le...
Du printemps républicain.
Non, le ministre là, qui est parti dans le privé, donc son nom m'échappe.
Le ministre Arnaud Montebourg ?
Peut-être Arnaud Montebourg. Vous savez, moi, je retiens deux choses de l'histoire du PS. Jaurès assassiné dans un café. Et Benoît Hamon qui a mis fin au Parti Socialiste. Voilà, c'est bien malheureux pour ce parti plus que centenaire. Et donc, vous allez me dire pourquoi Zemmour pourrait être candidat ou président ?
Exactement, c'est la question que je vous pose, puisque c'est notre débat.
Ben oui, parce que le risque que Mme Le Pen soit présidente et gagne devant Macron au second tour est important. Et Macron n'a plus, je pense, ce n'est plus le rempart contre Mme Le Pen. Et au sein des alliés de Macron, Édouard Philippe, bon, il est grillé à cause des Gilets jaunes, mais Bayrou, Bruno Le Maire pourrait prendre le relais. Mais si Macron insiste et y va, face à Marine Le Pen, ben, il vaut mieux qu'il y ait un Zemmour, parce que j'ai plus la confiance entre un Zemmour qui fera l'union de la droite en s'alliant avec les cadres du, j'allais dire, du RPR ou du Rassemblement des Républicains, que plutôt Marine Le Pen, qui a des troupes, mais qui a un programme idiot et qui n'a pas de cadre.
J'ai un peu du mal à vous suivre, pour tout vous dire, parce que vous êtes un électeur de gauche, mais vous souhaitez quand même que Zemmour soit au deuxième tour face à Emmanuel Macron.
Ben, il faut éviter le pire. Il faut éviter
vous pensez que Marine Le Pen c'est pire qu'Éric Zemmour ?
Non, oui. Marine Le Pen, il n'y a rien derrière. Quoi. Zemmour, c'est un intellectuel, un historien, un journaliste, et puis ça, il va pouvoir faire ce qu'on
d'accord,
appelle...
D'accord, alors là, je commence à comprendre le fil, effectivement. Vous pensez que Zemmour, ça serait un moindre mal, alors que Marine Le Pen vous fait peur ?
Oui, mais Zemmour, il peut rassembler aussi à gauche, parce que vous savez, aujourd'hui, le principal problème des classes populaires, c'est l'emploi. Et si on réindustrialise, c'est pas d'être végan ou je sais pas quoi encore, les lubies des mouvements qui se disent de gauche. Le peuple, il y avait des chiffres hier encore, il disait que par rapport à l'Allemagne, on avait je sais plus combien de pourcentage de gens qui n'étaient pas en activité. Ben, la première chose que demande les classes populaires, c'est travailler. Et donc, si on réindustrialise la France et qu'on donne du boulot aux gens, ben, je pense qu'on fait un premier pas vers le peuple de gauche.
C'est très intéressant ce que vous dites, parce que c'est une part de Zemmour qui est effectivement assez peu généralement commentée, c'est son rapport à l'économie. Et en fait, c'est un étatiste, Éric Zemmour, c'est un colbertiste, c'est pas un libéral. C'est pas un libéral.
C'est le plan, c'est De Gaulle, c'est...
Exactement, voilà. Donc c'est effectivement, sur le plan économique, c'est pas quelqu'un qu'on classerait à droite forcément. Un étatiste, a priori, on le met plutôt au centre, voire à gauche. Donc c'est intéressant, André. Merci beaucoup, André, pour ce témoignage.
Oui, il a quand même quelques faiblesses, monsieur. Ah, dommage.
Vous allez pouvoir continuer après la pause.
Ah, d'accord.
André, à tout de suite, André.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Praud. 13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
On va parler du pass sanitaire. J'entendais ce matin le Premier ministre Jean Castex. C'est vrai que parfois je suis surpris où on est pour le pass sanitaire et on est pour le pass sanitaire partout. Où on est contre le pass sanitaire, on est contre le pass sanitaire partout. Donc je saisis pas pourquoi il y a pass sanitaire dans un restaurant et pourquoi il y a pas pass sanitaire dans une entreprise. Mais vous allez peut-être pouvoir me l'expliquer, Laurent Tessier.
Bon, en tout cas, je vais vous répondre par une question. Faut-il mettre en place le pass sanitaire dans toutes les entreprises? Vous l'avez dit, le Premier ministre Jean Castex a répondu à la question ce matin sur RTL.
Au moment où je m'exprime, le pass sanitaire dans l'entreprise n'est pas d'actualité. La priorité des priorités du gouvernement, c'est que le plus de monde possible soit vacciné.
Ce n'est pas d'actualité. Salariés, chefs d'entreprise, qu'en pensez-vous? De plus en plus de patrons y sont favorables. Certains ont même déjà sauté le pas, comme ce patron d'une start-up de 10 salariés.
J'oblige le pass sanitaire parce que je veux pas qu'un de mes collaborateurs, parce que tout le monde ne l'a pas, il attrape le Covid, soit deux semaines au lit. Ça nuit aux conditions de travail, à ma responsabilité, et j'ai pas envie de tout ça. Donc ça me dérange un peu. Mais quand je mets les pouces à côté, je suis assez à l'aise avec cette décision.
Non, mais c'est pas du tout son job, le patron. Hein. Il peut aussi décider si l'employé doit sortir avec un tel, doit aller en vacances, etc. C'est pas son job. Hein.
C'est une décision illégale. Alors, serait-il bon, plus simple d'instaurer ce pass sanitaire dans toutes les entreprises? Est-ce qu'on risque d'augmenter les tensions entre salariés si la décision n'est pas prise? L'avis de Benoît Serre, le vice-président de l'Association nationale des DRH, dans RTL Midi.
On se dit, est-ce que demain, dans les entreprises, ceux qui portent des masques, il faut reconnaître que c'est pénible pour tout le monde, ne viendront pas reprocher à ceux qui n'ont pas de pass sanitaire ou qui refusent pour des raisons qui les regardent de se faire vacciner, le fait que c'est à cause d'eux, d'une certaine manière, qu'ils conservent le masque?
Faut-il mettre en place le pass sanitaire dans toutes les entreprises? Nous attendons dès maintenant vos appels au standard.
Et nous sommes avec Abdelatif, on va encore prendre peut-être deux témoignages sur Éric Zemmour et après on parlera donc du pass sanitaire. On pourra parler également de Mbappé si vous le souhaitez. Abdelatif qui est commerçant, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Que vous inspire la possible candidature Zemmour?
Rien.
Rien. Rien. Ah bah vous avez bien fait de nous appeler alors.
Moi non mais même quand on a même quand ça ne se fait rien, c'est un avis aussi. Faut le prendre en compte. Ah, je veux dire, quand je dis rien, je dis que c'est une candidature qui n'aboutira à rien du tout. Certainement comme si Zemmour, il va être à 5-6%, ce qui ne sera pas suffisant pour être président de la République. Mais bah, il aura le plaisir d'avoir fait une campagne qui va être, à mon avis, une campagne détestable. Dans tous les sens, parce que M. Zemmour ne sait faire qu'une chose, c'est attaquer une catégorie de personnes en France, c'est attaquer une religion. Il a basé toute sa stratégie là-dessus.
C'est-à-dire que vous pensez que Éric Zemmour ne fait qu'une chose, c'est en gros attaquer, puisque je devine ce que vous dites, attaquer l'islam. Vous pensez
il attaque l'islam, je vais vous dire une chose.
C'est ça qu'il fait.
J'ai une vidéo que j'ai mise sur les réseaux sociaux, une vidéo que je n'ai pas inventée, dans laquelle M. Zemmour a eu quand même cette étincelle d'esprit qui dit que le ver des vers vient du ver de l'islam. Waouh! Ah, moi, je suis resté sur... je vais pas dire le mot. J'ai trouvé ça extraordinaire.
Non, mais qu'il ait eu des propos, sans doute, qui vous ont choqué, je rebondissais parce que vous disiez « il ne fait que ça ».
À mon avis, il ne fait que ça. Et ce n'est pas la connaissance de l'histoire de France qui fait de quelqu'un un possible président de la République. La politique, c'est quelque chose de très, très, très sérieux. Il faut des équipes, il faut des gens et une majorité avec qui vous allez gouverner. Vous ne pouvez pas être juste président de la République comme ça et dire « bon voilà, je vais être candidat ». Des petits candidats comme ça, chaque année en France, on en a.
Abdelatif, je devine que vous êtes musulman.
Pourquoi vous le devinez?
Ben parce que vous avez parlé de l'islam et j'imagine que...
Je peux défendre les musulmans sans être musulman, monsieur.
Oui, mais alors, c'est pour ça que j'ai dit je devine, je n'en suis pas certain, mais vous l'êtes ou pas?
Alors je vous le confirme, je suis musulman, on en a parlé plusieurs fois d'ailleurs. Donc,
alors ça m'intéresse vraiment beaucoup. Vous vous sentez blessé, heurté par les propos d'Éric Zemmour?
Je vous le promets, c'est-à-dire que vous dépassez même le stade d'être heurté. Maintenant j'ai l'habitude.
Mais ça vous fait comment dire, vous trouvez ça scandaleux,
je trouve
dangereux, pourquoi pas
très dangereux, parce que ça s'appelle attiser le feu, ça s'appelle tout simplement mettre de l'huile sur le feu. Monsieur Zemmour, à chaque fois qu'il prend la parole, certainement pas tout le temps, mais dans il a toujours un ennemi, c'est l'islam, un ennemi, ce sont les musulmans, et ce sont finalement, de temps en temps, tous ceux qui défendent les musulmans, les Verts compris, puisqu'apparemment, il doit avoir une allergie au verre.
Mais est-ce que vous arrivez à comprendre pourquoi il peut attaquer parfois la place de la religion musulmane dans notre République ? Est-ce que vous comprenez le fonctionnement, j'allais dire, de son cerveau, en tout cas l'articulation de son raisonnement où il considère que la République est au-dessus de toutes les religions ?
Je pense que c'est quelqu'un qui est très intelligent, il est très cultivé, comme tout le monde le dit. Il est très, très intelligent et depuis le temps qu'il a décidé de plus faire le journaliste et plutôt faire que le chroniqueur qui attaque, qui chute. Je vais vous dire une chose, monsieur, et après je vais vous laisser parce que certainement il y a des gens derrière.
Non, non, mais c'est intéressant de vous écouter.
Dans son émission à CNews, j'ai vu un jour dire à la collègue qui en face de lui, lorsqu'il y a eu la mort de cet Américain George Floyd, il a dit « Comment peut-on croire que des Blancs mettent le pied, le genou par terre pour un Noir ?» Est-ce que vous vous... Et allez chercher, vous allez la trouver, cette phrase. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ce monsieur dit ? J'étais vraiment ulcéré, je me suis dit « Certainement que le CSA, que des associations... » vont peut-être l'attaquer, vont se poser des questions, rien.
Alors, faudrait reprendre exactement la phrase, parce que moi, ce qui est ennuyeux, c'est que parfois, on prête aux uns et aux autres des phrases qu'ils n'ont pas tout à fait dites.
Ah non, mais en fait, dit,
on a compris, Abdelatif, et c'est pour ça, moi, l'important, c'est ce que vous nous dites et comment vous vivez les situations, les paroles, en l'occurrence, d'Éric Zemmour. C'est ça qui m'intéresse. Et je devine, là aussi, dans votre...
Et politiquement. Et politiquement, vous savez à qui ça va servir ? Ça va servir au président de la République.
Ça, c'est parce un que... autre souci. Mais je devine chez vous la sincérité et l'authenticité de ce que vous nous dites et combien vous êtes choqué, blessé, etc. Et c'est ça que j'entends.
Je suis choqué.
Et c'est ça que j'entends. Donc, c'est ça qui m'intéresse.
Ouais, je suis choqué. Et j'ai vraiment mal au cœur, mal à la France. Bon, il y a des gens qui vont me dire de quel droit il dit ça. Ben, j'ai le droit d'être français aussi.
Mais vous l'êtes de toute façon, évidemment. Vous êtes
oui, mais je ne comprends pas comment, maintenant, cette fonction de la présidence de la République est devenue tellement bancale que tout le monde veut y être.
Eh ben, je suis d'accord avec vous, parce que je vais citer, il y a 26 noms en ce moment qui sont potentiellement candidats. François va être là dans une seconde. Tous candidats, pour le moment, Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan, François Asselineau, Florian Philippot, Jean Lassalle, Jean-Frédéric Poisson, mais aussi Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Philippe Juvin, Michel Barnier, Bruno Retailleau peut-être, Laurent Wauquiez peut-être, Stéphane Le Foll, Sandrine Rousseau, Yannick Jadot, Éric Piolle, Jean-Luc Mélenchon, Philippe Poutou, Fabien Roussel, Nathalie Arthaud, Hélène Touy qui représente le parti animaliste, Anne Hidalgo, Christiane Taubira, Arnaud Montebourg et j'ai oublié Emmanuel Macron. Eh bien, il y a 26 noms aujourd'hui potentiels pour être président de la République. François, bonjour.
Bonjour, ben je crois.
Ça sera après la pause, François. Ça sera
parfait,
après la
merci.
Pause. Vous
parfait,
allez être parfait
merci.
Aussi. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole.
Sur les bancs.
13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
François est avec nous, il est cadre commercial dans le Nord. François, nous continuons et même nous. Nous allons conclure avec Éric Zemmour et vous serez sans doute sur ce sujet un des derniers ou le dernier auditeur.
Merci Pascal, ben je vais donc vous annoncer ma candidature à l'élection présidentielle, puisque je ferai le 27e, c'est assez drôle, mais c'est aussi, et je ne partage pas du tout les idées de Monsieur Zemmour, hein, très clairement, je rejoins en salle précédente auditeur, mais c'est aussi, quelque part, le fait que nous soyons en démocratie et que notre constitution permet à quelqu'un qui respecte les principes édictés par la constitution de se présenter, ça permet aussi de se compter. Et on verra ce que ça donnera. On dit qu'il n'a pas d'appareil, qu'il n'a pas de structure. Il surfe, on ne peut pas nier qu'il surfe sur une forme de contestation qui existe en province, que l'on peut entendre, le samedi après-midi, même si on ne la partage pas. On peut entendre les propos probablement de temps en temps nauséabonds qu'il tient et qu'il peut tenir à l'égard d'eux. Ça met aussi en évidence certaines fractures de notre société dont il faut tenir compte. Le travail permanent que l'on doit faire sur la laïcité, qu'on doit faire dans notre société, mais qu'il se présente, on se comptera et on verra. Voilà, je suis pas inquiet, comme vous l'avez dit fort justement, il y a 26 candidats. Au premier tour, on sait que c'est exceptionnellement morcelé. Voilà, à moins qu'il y ait un but caché à horizon de 5 ans, pourquoi pas, ou qu'il y ait un but littéraire caché pour vendre des livres, je ne sais pas non plus. Mais voilà, laissons-le se présenter, comptons-nous. Et puis la démocratie, ça permet de rappeler aussi que l'arme ultime que tous les Français ont entre leurs mains, c'est le bulletin de vote à un moment. Et nous
mais
devons.
Mais de quoi est-il le symptôme? Parce que Zemmour qui se présente, c'est peut-être qu'il répond à un manque. Et peut-être faut-il s'interroger aussi à ça.
Mais je partage complètement votre point de vue. C'est quand on entend les propos, tous les propos que l'on peut voir ou lire de ci, de là, dans la presse, dans les manifestations du samedi après-midi, sur les réseaux sociaux, effectivement, ça peut répondre à une partie.
Un double manque, en fait. D'abord, les politiques qui sont au pouvoir ne réussissent pas. Toutes tendances confondues depuis des années. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'un président n'est pas réélu. Depuis de nombreuses années, en tout cas depuis Jacques Chirac, dans des conditions si particulières, première chose. Et puis, un manque peut-être dans son camp, où l'électorat de droite, aujourd'hui, a perdu. C'était Nicolas Sarkozy qui était le chef de file de cet électorat, et peut-être se sent-il orphelin aujourd'hui.
Les grands partis, Pascal, n'ont plus de leader incontesté.
Marine Le Pen reste leader incontesté, pour le coup.
J'entendais quand même un reportage sur votre antenne, ça doit être hier ou avant-hier, où vous disiez que même du côté de Marine Le Pen, du côté de ses cadres, ça commençait à coincer suite aux élections régionales. Donc il n'y a plus de leader qui sort. Donc effectivement, on voit une émergence de tas de petits mouvements, d'aussi de là, effectivement. Enfin, on pouvait lire dans la presse, dans une presse hebdomadaire, il y a deux ou trois semaines, où on parlait de retour des gourous, de retour de choses comme ça, de gens qui émettent des idées qui sont entendues par X centaines de milliers de personnes, qu'on doit laisser s'exprimer à un moment. Je vous rappelle qu'on est en démocratie, il est bien qu'on puisse laisser s'exprimer. Je pense aussi, et ça me fait toujours dire quelque chose, il y a aussi, on a un moment, les hommes politiques que l'on mérite. Et donc, à un moment, quand la France change de président tous les 5 ans, nos amis allemands, pendant le même temps, ont eu la même chancelière pendant 15 ans. Comment voulez-vous suivre une politique économique fondée, tenue, une politique étrangère fondée, tenue pendant 5 ans, quand on est en élection en campagne électorale pendant un an et demi tous les 5 ans, pendant que notre premier partenaire économique n'a pas varié d'un iota sa politique pendant 15 ans? Ça pose question. Donc, alors, laissons M. Zemmour se présenter, comptons-nous. Ça permettra aussi peut-être qu'il soit réellement contesté sur ses propos qui ne sont pas admissibles, des propos qui attaquent directement les musulmans de France, des propos qui attaquent directement, qui sont des propos borderline et quasi racistes, à un moment, eh bien, au moins il pourra être contesté officiellement sur des débats, sur des propos, sur la presse, qui pourra l'entendre, le faire s'exprimer, le pousser dans ses retranchements et l'amener à faire comprendre que ce personnage-là n'est pas digne d'être président de la France, qui est, je vous rappelle, un grand État démocratique et qui a sur le fronton de ses mairies liberté, égalité, fraternité.
Merci beaucoup François. C'est avec vous que nous avons conclu ce chapitre Zemmour et on va maintenant parler du pass sanitaire.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Julien est chef d'entreprise, il a 29 ans, il habite Besançon et il est pour le pass sanitaire en entreprise. Bonjour Julien, expliquez-nous ça.
Ben, je vous explique tout simplement la situation actuelle, c'est-à-dire que il y a eu un pass sanitaire instauré en France, on en est d'accord ou pas. Mais ce pass sanitaire, il est imposé, par exemple, moi je suis entraîneur de foot amateur, je dois demander l'autorisation à mes joueurs, en tout cas je dois leur imposer le pass sanitaire pour jouer le week-end. Mais juridiquement, en entreprise, pour le moment, les chefs d'entreprise n'ont pas à savoir si leur employé est vacciné ou non, donc on ne peut pas exiger le pass sanitaire. C'est assez contradictoire en fait, dans le sens où apparemment, ce pass sanitaire-là peut permettre de ne pas fermer, c'est ce qu'on nous dit, c'est ce qu'on nous fait entendre, peut permettre de ne pas fermer des structures qui nous ont impacté nous directement, je pense aux magasins, aux bijouteries, etc., parce que je suis dans le domaine de l'horlogerie. Donc pourquoi ne pas l'imposer dans toutes les structures, du moins déjà fermées, comme nous on en a une entreprise fermée, on a un local fermé. Donc c'est sûr que toute la journée, il y a la possibilité de se transmettre éventuellement un virus. Donc je ne comprends pas pourquoi au moment où on a instauré ce pass sanitaire-là, il n'a pas été suivi aussi dans ces structures-là. J'irais même plus loin. Aujourd'hui, ça fait un an et demi qu'on oblige ou qu'on impose le masque à nos employés. On n'a plus de gestes amicaux, on va dire. Il n'y a plus de serrage de main le matin. On ne mange plus ensemble. Combien de temps encore il faudra attendre avant de retrouver cette vie-là? Je pense que la vie d'entreprise, elle a été littéralement coupée, que ce soit la relation entre l'entreprise, donc l'employeur et ses salariés, et même les salariés entre eux. Donc si on a aujourd'hui une solution qui peut permettre de retrouver ça, je vois pas pourquoi on ne l'utilise pas. C'est surtout ça, c'est pas être pour ou contre le pass sanitaire, c'est être pour retrouver la vie normale, que ce soit du côté professionnel ou du côté personnel. Et aujourd'hui, si on n'impose pas ce genre de choses-là, pour moi, en tout cas, je pense qu'on est loin de la retrouver.
Non, mais là où je vous rejoins, c'est qu'il y a incohérence. Donc, le pass sanitaire, où on est pour le pass sanitaire dans tous les endroits de France, un restaurant comme une entreprise, où on est contre le pass sanitaire dans tous les endroits. Donc, je partage votre avis. Je trouve qu'il y a une vraie incohérence. Mais, il y a eu souvent des incohérences.
C'est ça. Et le problème, c'est qu'on continue, quoi. Donc, on va arriver vers les élections, donc les décisions vont être de plus en plus délicates à prendre pour eux.
Oui, ce qui est drôle, ce qui m'amuse toujours, c'est les arguments qui sont donnés pour ne pas justifier le pass sanitaire dans les entreprises, qui sont l'exact contraire des justifications qui sont données pour le mettre en place dans un restaurant.
Non, mais voilà, c'est assez contradictoire, parce qu'en plus, si vous voulez, moi, pour la petite histoire, nous, aujourd'hui, 100% des employés sont au pass sanitaire, ont le pass sanitaire, soit avec le vaccin, soit ils ont eu la Covid et ils ont le pass sanitaire pour 5 mois ou 5 ou 6 mois, je ne sais plus exactement. Donc là, j'ai 100% de mes employés qui sont OK au pass sanitaire. Donc ça veut dire que, logiquement, on pourrait retirer le masque, de nouveau manger ensemble, etc. Sauf que, en interrogeant le juriste, la réponse, elle est claire, elle est nette, elle est précise. Non, pas de pass sanitaire dans les entreprises parce que vous n'avez pas à savoir si vos employés sont vaccinés ou non. A contrario, si un employé vous demande d'aller se faire vacciner, vous devez lui laisser 2 heures de son temps payé. Alors, c'est quand même assez absurde. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de demander, mais on a quand même le droit d'autoriser les employés et de les payer 2 heures de leur temps pour aller se faire vacciner.
Je vous rejoins. Merci en tout cas, Julien. On va être avec Francis dans une seconde, qui est enseigné à Nancy, toujours sur ce sujet du pass sanitaire. Je l'ai dit aussi, il y a d'autres actualités, notamment, c'est intéressant de vous entendre sur Mbappé. Est-ce que vous avez envie qu'il quitte le Paris Saint-Germain? Est-ce que vous pensez que c'est bien pour lui qu'il aille au Real Madrid? Il pourrait quitter avant la fin de son contrat. La fin de son contrat, c'est en juin. Donc, s'il ne veut pas prolonger son contrat, l'intérêt du Paris Saint-Germain, c'est plutôt de le vendre pour espérer toucher au moins un peu d'argent, alors qu'il sera libre en juin prochain. Et s'il quittait à ce moment-là le club, ce serait pour 0 €. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Praud sur RT
Sucré.
Pascal Praud. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Pas totalement.
Mais vous savez que c'est aujourd'hui la journée mondiale du topless. Oui. Et selon une étude IFOP, de moins en moins de femmes bronzent seins nus, 1 sur 5 contre 1 sur 3 il y a 12 ans. Donc,
tout change.
Mais non, mais moi ce qui m'intéresse, c'est vos témoignages. Alors pourquoi est-ce qu'on bronze moins? J'ai entendu beaucoup le risque de cancer. J'ai entendu beaucoup de témoignages ces dernières heures disant oui, il y a un risque de cancer. Donc,
et la peur de remarques aussi, de critiques aussi.
Peut-être aussi, mais ça serait bien que vous nous appeliez. Si vous êtes sur une plage en ce moment, il fait plutôt beau visiblement un peu partout, appelez-nous. Si vous êtes en train de faire du topless, alors là, appelez-nous doublement, puisque vous nous raconterez comment ça se passe sur votre plage. Et on va entamer le débat, Laurent.
Et vous pouvez nous appeler aussi pour parler du feuilleton Kylian Mbappé.
Nous ne retiendrons personne, fait savoir le directeur sportif du Paris Saint-Germain, Leonardo, à condition évidemment que l'enveloppe soit à la hauteur.
220 millions d'euros, c'est ce que le PSG espère du Real Madrid pour laisser partir Kylian Mbappé, selon nos confrères du Parisien.
Le club parisien a déjà dit non aux 160 millions d'euros proposés par le Real Madrid. Supporter du PSG, voyez-vous Kylian Mbappé partir? Le souhaitez-vous? Faut-il vendre le joueur? Kylian Mbappé en a-t-il marre de jouer au Paris Saint-Germain? Le 31 mars, il avait avoué se sentir usé des troqueurs, des critiques. C'était un document M6 RTL de Philippe Sanfourche.
Bien sûr, ça fatigue, surtout quand tu joues dans un club de ton pays, que tu donnes tout pour ton équipe nationale aussi. Bien sûr qu'au bout d'un moment, ça fatigue. Mais c'est différent que pour les joueurs qui jouent à l'étranger. Et ils reviennent ici que pour l'équipe nationale. Moi, je suis là tout le temps, donc bien sûr que ça parle beaucoup plus. Voilà, c'est un contexte différent, mais je savais en signant à Paris que ça allait être de ce contexte-là. Mais on verra par la suite.
Alors, supporters du PSG, amoureux du football, dans quel état d'esprit êtes-vous? Vos avis dès maintenant au standard.
Nous sommes donc avec Francis, qui est enseignant à Nancy. Bonjour Francis.
Bonjour Pascal, bonjour aux auditeurs.
Le pass sanitaire dans l'entreprise, qu'en pensez-vous?
Oh, le pass sanitaire tout court, hein. Dans l'entreprise, vous pouvez retirer ça de votre expression. Le pass sanitaire, pour moi, est une aberration. D'ailleurs, l'auditeur précédent a dit, dans mon entreprise, tout le monde a le pass sanitaire, soit parce qu'ils ont eu la Covid, soit parce qu'ils sont vaccinés. Et donc, on ne comprend pas pourquoi on ne peut pas retirer le masque. Ben, s'il avait passé quelques heures à écouter, à regarder, à lire des études sur Internet, il saurait qu'il est toujours, malgré sa vaccination, il est toujours contaminant et contaminable.
Un petit peu moins quand même, non? Quand on est vacciné, on contamine moins. Paraît-il, oui, c'est 8 fois moins.
Oui, oui, alors 8, c'était 12, ensuite c'était 4, ensuite c'est remonté à 8.
Non, mais je suis d'accord.
Il y a une chose qui m'intéresse, moi, c'est le nombre de cas graves, par exemple, dans les hôpitaux israéliens, puisque lundi dernier, une étude d'un professeur israélien dont je n'ai pas le nom nous expliquait que 69% des hospitalisés sont vaccinés. Alors on va dire oui, c'est normal parce que comme le pays était très vacciné, c'est normal qu'on retrouve plein de vaccinés à l'hôpital. Alors ça fait un peu rigoler parce qu'il y a un an et demi, au début de cette pandémie, le taux d'immunité collective était estimé entre 55 et 60% parce que le taux d'immunité collective dépend du R0, le facteur d'infection du virus. Et comme ce facteur d'infection devient de plus en plus important avec les variants, d'abord Alpha, où on est passé à 70-75% de taux d'immunité collective, maintenant avec le variant Delta, on nous explique que c'est 90 à 95%. Or, on a un pays, l'Islande, qui est vacciné à 93% et dont le Premier ministre a fait une déclaration la semaine dernière pour expliquer que c'était un échec. Donc, à un moment donné, il faut peut-être quand même se poser les bonnes questions. Le pass sanitaire donne l'impression d'une liberté retrouvée à certains, alors que les gestes barrières sont beaucoup plus importants, la prévention est beaucoup plus importante, les traitements sont beaucoup plus importants. On devrait insister sur tout ça. On insiste sur un truc, la vaccination.
Mais convenons que cette vaccination est aussi efficace, convenons-en, même si
Si vous le dites.
Bah, je le dis, c'est pas moi qui le dis. Convenons que la vaccination évite déjà les cas graves et que...
Mais non, je viens de vous montrer que non. En Israël, qui est un pays très vacciné, les cas graves, avec une flambée des cas graves, sont des gens vaccinés. Mais alors, si vous dites ça à mon médecin généraliste, il vous dit c'est normal, Israël est un pays très vacciné, donc on va retrouver...
Je vous dis que des cas graves et soient vaccinés ne veut pas dire que la vaccination n'empêche pas les cas graves. Il y a beaucoup de gens qui ne sont ou ne seraient pas allés dans les hôpitaux parce que précisément ils ont été vaccinés.
D'accord, mais on
mais
parle
alors il y a toujours à la marge quelques cas effectivement qui
non,
peuvent.
Non, alors justement,
le vaccin ne laisse peut-être pas passer 100% d'efficacité.
Très bonne remarque d'un Pascal Praud reposé après ses vacances, à la marge. À la marge. Non, et c'est quoi, à la marge? On parle en quoi? En pourcentage? On a supprimé 1000 lits depuis le début de cette crise.
Mais Francis, vous ne me convaincrez pas que le vaccin est inefficace. Voilà.
Ben moi, je ne veux pas vous convaincre que le vaccin est inefficace. Moi, je ne suis pas vacciné, mon épouse ne l'est pas et mes 4 enfants ne le sont pas. Pourtant, ils ont entre 30 et 36 ans, ils sont adultes.
Oui, mais alors, là, en revanche, si... vous n'entrez dans aucune catégorie de fragilité, ça je peux comprendre que vous ne vouliez pas vous faire vacciner, que vous pensiez que vous échapperez à la réanimation. Et vous avez sans doute raison. Sans doute, je le dis bien sans doute, parce que statistiquement, à la marge aussi, il y a des gens qui sont en pleine forme qui se retrouvent en réa. Mais en revanche...
Oui, mais on insiste beaucoup plus là-dessus. Vous savez, il y a un sketch qui dit...
Mais en revanche, pour effectivement les gens qui sont fragiles, qui sont âgés, qui ont des comorbidités, le vaccin, il est efficace. On peut au moins être d'accord là-dessus. Manifestement, vous ne l'êtes pas. Anthony, Francis, je vous propose de vous laisser quelques secondes parce que Jean-Alphonse Richard est là et Jean-Alphonse Richard, c'est son heure. Et son heure, c'est celle du crime.
Bonjour Pascal.
Bonjour. Donc aujourd'hui, à 14h30, quel sera le programme ?
15h30, l'affaire Maëlys. Alors on revient, c'est un récit détaillé avec...
Qui n'est pas fini.
Évidemment, et voilà pourquoi on revient là-dessus avec nos invités, c'est que tout d'abord l'enquête est terminée, il y a un procès qui va s'ouvrir au début de l'année prochaine, et puis surtout, parce que vous venez de le dire, il y a plein de mystères encore qui restent en suspens dans cette affaire.
Corps a été retrouvé.
Le corps a été retrouvé, mais quelqu'un a avoué, Nordal Lelandais a avoué avoir tué la petite Maëlys. On ne sait pas toujours exactement comment il a tué, et on ne sait pas surtout pourquoi il a tué. Là-dessus, il garde un silence absolu. Est-ce que c'est une dérive sexuelle, ce qui est tout à fait probable, un viol qui serait terminé en meurtre? Il ne dit rien là-dessus. Il y a plein d'inconnus, il y a encore plein de trous dans son emploi du temps qui n'ont pas été comblés, que peut-être le procès parviendra à éclairer. On va revenir là-dessus avec nos invités pendant une heure, 14h30, 15h30, dans l'heure du crime. Parce que vraiment, histoire ça vaut terrible. Le coup d'éclaircir ce dossier.
Histoire terrible, effectivement, qu'on a tous en mémoire. Agnès Bonfillon est là et elle va nous rappeler les titres du jour. Merci Jean-Alphonse, rendez-vous à 14h30. A tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud. RTL.
14h. Le flash avec Agnès Bonfillon.
L'incendie dans le Var est officiellement éteint. Le bilan est lourd, je vous le rappelle. 2 morts, plus de 7000 hectares brûlés. Le sinistre était maîtrisé depuis lundi. Cette fois, les pompiers font savoir qu'il n'y a plus de braise. Jean Castex a choisi RTL pour faire sa rentrée. Ce matin, le Premier ministre en a profité pour donner une date. À partir du 12 septembre, les personnes qui le souhaitent en EHPAD pourront recevoir la troisième dose de vaccin. Et il sera possible, dès le 1er septembre, pour les plus de 65 ans et ceux et celles qui présentent des comorbidités, de prendre rendez-vous pour ce rappel. Un délai de 6 mois entre la deuxième et la troisième injection est à respecter. Concernant le pass sanitaire, vous en avez parlé, Pascal, son obligation dans toutes les entreprises n'est absolument pas d'actualité. Et puis vous l'avez peut-être entendu, toujours dans RTL Midi, Robert Ménard a bien reçu une demande de parrainage pour soutenir Éric Zemmour à la présidentielle. Le maire de Béziers a également ajouté sur notre antenne qu'il ne comptait pas donner sa signature à celui qu'il connaît pourtant depuis de nombreuses années. Pour lui, un polémiste ne fait pas un homme politique. Et de 4 médailles pour la France aux Jeux paralympiques de Tokyo. Après l'or ce matin pour le cycliste Alexandre Léauté, Axel Bourlon décroche l'argent en haltérophilie. La météo demain, un temps généralement sec et ensoleillé. Juste quelques nuages et averses qui résisteront des Hauts-de-France au Grand Est. Les températures le matin iront de 9 à 13 degrés au nord et de 11 à 23 degrés au sud. À 14h, 2 sur RTL précisément. Vous avez la parole au 3210 avec Pascal Praud, bien sûr.
Et on termine avec Francis. Merci Agnès. On termine avec Francis qui est enseignant.
Oui, ben écoutez, vous avez dit Pascal, vous ne me convaincrez pas, mais je ne cherche pas à vous convaincre. C'est un peu la différence entre les vaccins.
Ah là, je ne vous entends plus. Non, ce que je trouve dommage, je vais vous dire ce que je trouve dommage, Francis, c'est vous êtes enseignant, c'est de nier le réel. C'est ça qui m'ennuie. On peut avoir sur la politique générale du gouvernement des restrictions. Le gouvernement a choisi de vacciner tout le monde. On peut effectivement dire que c'était pas forcément la bonne solution, d'autant que Jean-François Delfresti disait ce matin que quand on est vacciné, on reste contaminant. Bon, je pense qu'il fallait depuis le départ vacciner les gens fragiles, ça c'est clair. Mais vous en êtes à nier l'efficacité du vaccin sur des gens qui ont des comorbidités et des fragilités. C'est ça que je trouve très étonnant. Ah bon ? Bah alors j'ai mal compris.
Moi c'est la généralisation. C'est la généralisation cachée de la vaccination auprès d'enfants de 12 ans. Enfin, il faut être complètement fou. Est-ce que vous avez regardé les études qui parlent de la protéine spike et de ses ravages potentiels? Parce que pour l'instant, on ne sait rien. Est-ce que vous avez regardé les études qui parlent des ravages potentiels de la séquence de nanoparticules lipides?
Non, mais je ne veux pas les regarder parce que je ne comprendrai rien, mais oui, pour mais tout vous dire. Je laisse les professionnels regarder et tirer leurs conclusions. Moi, ce n'est pas mon métier de lire des études sur la... Je serais perdu.
Ne dites pas ça. Il y a des études avec des synthèses qui sont accessibles à n'importe quel être humain qui sait réfléchir. Il faut arrêter.
Je suis pas sûr, justement, et c'est un problème d'ailleurs. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui lisent des choses qui comprennent rien, qu'ils ne comprennent pas, je veux dire, et ils pensent les comprendre, mais
oui, mais il y a aussi des gens qui comprennent ce qu'ils lisent, et puis il y a des gens qui tirent des tas de sonnettes d'alarme.
Oui.
Et donc on a des alertes dans tous les sens qui tombent parce qu'on est en train de faire une expérimentation mondiale. Qui n'a jamais été réalisé dans l'humanité avec l'injection d'une séquence de nanoparticules dans le corps humain, ça ne s'est jamais vu. On est en train de travailler sur une seule protéine.
Écoutez,
qui est la protéine
Francis, 6 mois plus tard, il y a tellement rien qu'on est obligé de faire une troisième dose.
Mais écoutez,
je veux dire, si ça restait comme vous le pensez dans votre corps, au bout de 6 mois, on ne ferait pas une nouvelle dose. Ce vaccin, il disparaît complètement. C'est quand même un argument que vous pouvez entendre.
Non, ça c'est faux.
Je ne peux pas entrer dans cette discussion parce qu'en plus, je ne suis pas armé, je ne suis pas médecin. Donc, je ne veux pas entrer là-dedans.
C'est pour ça que moi, je ne discute plus avec des gens qui me disent « il faut absolument être vacciné, parce que si tu n'es pas vacciné, c'est un crime contre l'humanité. Si tu n'es pas vacciné, tu as un danger pour les autres, etc. »
Francis, vous êtes enseignant en quoi ? Pardonnez-moi de le dire comme ça.
Innovation dans une école d'ingénieurs.
Bon, ben ça n'a rien à voir avec la médecine. Je veux dire, chacun a sa place.
Parce que vous croyez qu'il n'y a que les médecins qui réfléchissent. Vous croyez
non,
qu'il y a un
je
biologiste.
Dis pas qu'ils réfléchissent, mais je leur donne le crédit de connaître un peu mieux la situation que moi.
Vous recevez, ou que vous peut-être, mais vous recevez des généralistes qui en savent 1000 fois moins que n'importe quel biologiste de notre université, 1000 fois moins que n'importe quel chimiste de notre université, et 1000 fois moins que n'importe quel physicien de notre université sur le séquençage des nanoparticules.
Bon, Francis.
Donc, il faut arrêter de croire. J'étais avant-hier chez une amie généraliste qui a fait 20 ans d'hôpital urgentiste et en cancérologie, qui me dit, tant que tu peux échapper à la vaccination, ne te fais pas vacciner, fais attention, fais de la prévention, etc., etc. Et voilà, donc vous recevez des gens qui sont pro.
Mais il y a eu 5 milliards, je crois, de gens vaccinés, quoi, 5 milliards de doses depuis le début, voilà, donc s'il y avait des soucis, bon. Écoutez, moi ce que je vous propose, Francis, d'abord c'est intéressant de discuter avec des gens qui ont un avis parfois différent des autres, donc je vous en remercie grandement. Simplement, je pense qu'on a été assez exhaustif, en tout cas avec vous, et je vous propose peut-être que nous enchaînions avec Anthony, qui est un professionnel de santé, si j'ai bien compris. Vous faites quoi, Anthony ?
Bonjour, je suis bourreau.
Bourreau ?
Je suis kinéostéopathe.
Ah bon, vous m'avez fait peur. Vous savez comment ils s'appelaient, les bourreaux en France, la famille des bourreaux? Je pense qu'ils s'appelaient Samson, mais c'est parce qu'ils se refilaient le job de père en fils. Et je crois que le nom des bourreaux, c'était Samson. Alors évidemment, c'est une activité qui est un peu au chômage depuis 1980. Bah,
après, moi, j'assume un peu plus qu'un bourreau, hein, je travaille sans la cagoule.
Bon, qu'est-ce que vous avez pensé, par exemple, de ce que disait Francis?
Eh ben écoutez, je le remercie Francis parce qu'en fait il a évité toute mon introduction qui est d'un point de vue médical, et je vais me permettre de recentrer un tout petit peu mon intervention en lien avec ce que vous posez comme question. C'est-à-dire je vais ne pas vous parler du vaccin, je vais vous parler du pass sanitaire parce que c'est ça votre question à la base. Pourquoi le pass sanitaire ne serait-il pas mis en application en entreprise ? Déjà, je vous remercie d'une chose, c'est de passer après Francis, comme je viens de vous le dire, qui a permis de faire une belle introduction d'ordre, on va dire, plus médical, et juste après votre journaliste qui a fait le rappel des titres, et qui a parlé de l'intervention de Jean Castex ce matin sur votre antenne, en disant que l'application du pass sanitaire dans les entreprises n'était absolument pas, d'accord, dans les petits papiers, c'était pas du tout l'actualité. Moi, j'aimerais bien qu'on réécoute la phrase vraie de Jean Castex, parce qu'il y a un gros problème. Il y a un problème d'ordre, vous l'avez cité vous-même, et je vais citer un citant. C'est très étrange ce que je suis en train de faire, mais je vais citer un citant. Vous-même, tout à l'heure, puisque je vous écoute depuis le début de l'intervention, Pascal Praud, je vous écoute d'ailleurs tous les jours, Vous avez cité le général de Gaulle en disant que généralement les personnes intelligentes manquaient de courage et que les personnes qui étaient courageuses manquaient parfois d'intelligence. Et vous avez dit vous-même, Pascal Praud, dans la phrase il y a un mot qui est primordial, c'est le mot « généralement ». Quand vous avez un président de la République qui vous regarde droit dans les yeux, qui utilise des termes qui sont francs, vrais, et qui vous dit que le pass sanitaire ne sera jamais mis en application, que personne ne souffrira d'aucune discrimination en lien avec la vaccination ou la non-vaccination, que quelques semaines après, vous le prenez de plein fouet, excusez-moi, quand son Premier ministre arrive et me dit à coup de « pour le moment, ce n'est pas d'actualité », la parole, elle est déjà assez peu crédible pour que je puisse croire à celle-là. Donc maintenant, il va falloir remettre les choses en place.
C'est ce que j'ai dit d'ailleurs tout à l'heure. Hein. Ouais, si vous avez écouté, j'ai dit parfois on nous a dit des choses et trois mois après on nous a dit le contraire.
Exactement. J'avais et fait, c'est pour ça que j'ai dit, je veux citer un citant. Je vous ai cité vous-même, Pascal, parce que tout à l'heure vous avez fait le travail pour moi. Je l'avais noté sur un petit papier.
Bon, Anthony, on va marquer une pause parce que j'ai l'impression que vous êtes un bon client, comme on dit, et que on va vous donner un peu d'espace pour parler. Et après la pause, on se retrouve.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.
Pascal Praud,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Nous sommes donc avec Anthony, qui est un professionnel de la santé, mais qui est également un professionnel, j'ai l'impression, de la communication et de la parole, parce qu'il est très bon,
Anthony.
Vous me
flattez, je vais finir par rougir.
Non, non, vous êtes très bon. Alors, que voulez-vous nous dire ? Synthétique.
Voilà, je passe donc sur cette introduction faite en lien avec nos dirigeants, et non plus nos représentants, hein, ça a bien changé, c'est plus des représentants, mais bien des dirigeants, pour en revenir à ce qu'a dit tout à l'heure... Francis, donc juste avant, et puis l'intervenant que vous avez eu, qui était le président du syndic des ressources humaines, c'est ça, si j'ai bien compris ?
Oui.
Voilà. Tout à l'heure, donc, il a été bien précisé que dans l'actualité, ce n'était pas d'actualité, justement, que de mettre en place le pass sanitaire dans les entreprises. Il y a deux poids, deux mesures, comme depuis le début de cette pseudo-crise sanitaire. Je dis pseudo-crise sanitaire et non pas crise pseudo-sanitaire. Non, non. Il y a bien un problème d'ordre sanitaire, mais il va falloir enlever le mot sanitaire et le dissocier du mot pass. Il faut, à un moment donné, être en pleine conscience.
Non, au fait, on te dit.
Ce pass n'a au rien fait. De sanitaire.
D'accord, au fait. Donc ce pass n'a au rien fait. De sanitaire.
Non, moi je D'accord. viens de recevoir mon courrier de l'ARS.
Pour, mais ce pass, il est fait pour se,
justement,
pour
je vais
se
vous
faire
le dire,
vacciner,
je viens de
point,
recevoir...
tout le monde a compris.
Oui, non, pour se faire vacciner et pour interdire aux gens de travailler. Je suis professionnel de santé, je ne suis pas vacciné, je viens de recevoir mon courrier de l'ARS et c'est écrit en gras dessus, c'est écrit en gras. Je suis réputé, voici la formule utilisée, je suis réputé ne plus avoir le droit d'exercer mon travail à partir du 15 septembre si je ne rentre pas dans les clous. Pourquoi moi je n'aurais pas le droit de travailler. Et pourquoi, à l'Assemblée nationale, on a le droit de rentrer sans passe sanitaire et dans les entreprises, on a le droit de rentrer sans passe sanitaire. Je risque quoi ? Une révocation, tout simplement. En fait, ils vont déchirer mon diplôme.
Donc vous allez vous faire vacciner ?
Eh ben, la question que je me pose, c'est ça. Je ne vais pas vous mentir, j'ai ressecouillé lundi. Depuis lundi, je ne dors pas. Je dois faire quoi ? J'ai bac plus 12, monsieur Pro.
J'ai 6 ans d'ostéo. Pourquoi vous ne vous faites pas vacciner ? Je suis sûr, j'ai dit. Pourquoi vous ne vous faites pas
vacciner ?
Oui, mais alors dites-moi, vous avez peur ?
Merci de la poser, cette question.
Vous avez peur ?
Merci de la poser. Non, monsieur Praud, je me base sur des faits scientifiques car je suis un scientifique. J'ai 40 ans. Je suis sportif. Je n'ai pas de comorbidité. Qu'il faille vacciner les personnes qui sont
mais ça,
en danger,
on est d'accord,
je suis
on l'a dit 12 millions de fois, mais on est tous d'accord.
Je suis
d'accord.
Complètement d'accord. Vous l'avez dit avec Francis
oui,
juste
mais
avant.
Est-ce que...
Je peux être vecteur en étant vacciné ou non.
Oui.
Pourquoi me ferais-je vacciner ? Donnez-moi un argument, j'y vais demain, monsieur Praud.
Mais...
Donnez-moi un argument, j'y vais demain.
Mais,
je vous le jure, je vous le promets sur la tête de mes enfants.
Mais
j'ai deux enfants,
l'argument,
demain je vais me faire vacciner.
Mais l'argument,
si vous
c'est que vous perdez votre job ?
Alors ce n'est pas un vaccin. Un vaccin doit vous protéger d'un point de vue sanitaire. Mais... Il ne vous donne pas le droit de travailler, il ne vous donne pas le droit de boire un café en terrasse. C'est un passe-droit, ce n'est pas un vaccin. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut enlever le mot sanitaire du mot
mais
passe
peu importe,
sanitaire.
Je peux être en plus d'accord avec tout ça, mais bon, il y a
et
un
ben
moment...
Voilà.
Mais...
Donc on est bien dans une crise politique et non pas dans une crise sanitaire, monsieur Praud.
Mais comment vous dire
Eh bien, dites-moi justement, comment vous dire les mots sont difficiles à trouver.
Non,
pourquoi
bon,
parce qu'il n'y a pas d'argumentation
sont,
face à ça.
Ils sont difficiles à trouver parce que vous ne me laissez pas les...
Eh ben, je vous laisse faire, allez-y. C'est
j'entends
vous qui avez l'antenne
tout...
après tout.
Non mais j'entends tout ce que vous dites. Moi-même, je me suis fait vacciner au dernier moment. Je me suis vacciné le 13 juillet.
C'est votre choix.
Mais j'ai pas... vous me demandez de vous expliquer, vous me coupez.
Allez-y.
Le 13 juillet, j'ai compris que je pourrais plus vivre. Et que je pourrais plus aller dans des restos, que je pourrais plus aller nulle part. Bon, ben voilà, je me suis fait vacciner.
Autrement, je pense qu'effectivement, avec mon profil, plutôt en forme, pas de comorbidité, pas dans un âge critique, il n'y avait pas de raison où, que je me fasse vacciner. C'est entendu.
Mais... Donc vous l'avez fait pour des conditions sociales?
Oui, alors en plus, il y a
non,
la
mais
deuxième.
Oui, vous venez de
le
dire.
Oui, oui, mais il y a le deuxième argument qui est un peu battu en brèche ces dernières heures, c'est qu'on imaginait quand même que je puisse être contaminant. Et on imaginait, quand je me suis fait vacciner, qu'on l'était moins. Maintenant, Jean-François Delfraissy commence à dire que même si vous êtes vacciné, vous êtes contaminant autant que si vous n'étiez pas vacciné.
Mais ça, on le sait depuis longtemps, monsieur.
On ne le savait pas de cette manière-là.
Mais bien sûr que si. Et vous vous rendez compte que c'est contre-productif?
Mais il faut se faire vacciner pour protéger les autres. Mais bon.
Ça, la campagne de « si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour les autres », elle est fausse. Elle est fausse puisqu'on sait qu'on peut être vecteur. Donc il ne faut pas utiliser cet argument-là.
Anthony, on va passer par la case Olivier. Facebook, mais j'entends ce que vous dites. Hein,
je vous remercie franchement de m'avoir donné la parole.
Pourquoi
cette émission, vous êtes une des rares antennes, je dois le dire, vous êtes une des rares antennes à l'avoir fait. Merci monsieur Pro. Je ne suis pas toujours d'accord avec vous, mais il y a un truc que j'aime chez vous, c'est que vous êtes droit dans vos bottes et quand vous défendez quelque chose, vous le défendez et vous savez argumenter. C'est ça qui fait avancer le débat, monsieur Pro.
Mais vous savez, moi je ne suis pas toujours non plus d'accord avec moi-même de temps en temps, donc ce n'est pas très grave. Souvent je le dis pour m'amuser, mais c'est vrai d'ailleurs, parce que parfois on change d'avis et on est tous pareils. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est tous parfois soumis à des influences qui peuvent parfois sont différentes et peuvent nous faire changer sur un sujet. Olivier, par exemple. Moi, j'ai changé d'avis sur sa coiffure. L'année dernière, il a traversé toute la saison avec des coiffures étranges. Nous sommes d'accord.
C'est exactement.
Damien Béchiot. Bon, manifestement, cette année, il a trouvé le bon coiffeur.
Oh.
Ah non, il l'a trouvé.
Vous m'avez dit hier que je ressemble à Marcel Proust.
Oui, la coiffure de Marcel Proust, vous savez, il était coiffé avec une raie au milieu de Marcel Proust. Vous aimez Proust, Olivier?
Bien sûr.
Oui. Vous le lisez régulièrement? Non, mais vous avez le droit de ne pas aimer. Hein.
Alors, je le connais. Je ne l'ai pas lu, mais je le connais.
Ah
c'est
oui,
normal.
Ah bah, vous l'aimez, mais vous ne l'avez pas lu. Donc, ça, c'est comme ça. C'est la meilleure solution. Bon, que nous dit-on sur Facebook ou peut-être écrit-on comme Marcel Proust?
Bien sûr. Yves pousse un coup de gueule. Il serait plus honnête de décréter la vaccination obligatoire plutôt que cette mesure hypocrite, nous dit-il. Pour Jean-Claude, ce pass sanitaire obligatoire en entreprise n'est qu'une question de temps. Donc, tous ceux qui auront changé de métier pour l'éviter l'auront fait pour rien. Adeline, elle, est totalement pour le pass en entreprise. On le demande déjà quasiment partout. Il n'y a donc pas de raison qu'elles en soient exemptées. Pour conclure, Benoît nous dit que c'est la seule solution pour sortir définitivement de cette crise, Pascal.
La pause, à tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Le pass sanitaire dans l'entreprise, moi j'ai le sentiment qu'on va y venir. Même si le Premier ministre a dit aujourd'hui que ce n'est pas à l'ordre du jour. Nicolas est là, il est aide-soignant et nous souhaitions entendre son avis. Bonjour Nicolas.
Bonjour Pascal, j'étais en train de bouillir en entendant Anthony tout à l'heure.
Ah ben il est encore là Anthony, vous allez pouvoir lui dire si vous voulez, vous allez pouvoir lui parler directement. Pourquoi ça?
Parce que là il est en plein dans la rhétorique, il est absolument pas dans la science. Alors par contre j'ai essayé là de regarder ce qu'a dit le professeur Delfraissy là sur la contamination, mais jusque là toutes les études sérieuses ont montré qu'il y avait quand même un risque de contamination avec le vaccin, mais que ce risque était quand même amoindri. Donc, au niveau contamination, au niveau infectiologie, tout est une question de statistique. Le but, c'est de faire baisser le chiffre de la statistique de contamination. C'est à ça que ça sert, un vaccin, tout simplement. Je ne sais pas si vous me suivez.
Ah non, mais je vous suis complètement, et même je ne vous interromps pas tellement je vous suis.
Après, pour votre argument par rapport à votre âge, votre condition physique, je l'entends. Et moi, j'ai des collègues, infirmiers ou pas du tout dans le métier, qui font des Covid longs. J'ai des collègues de 40 ans qui font des Covid longs. Ça fait 3 mois qu'ils sont en arrêt maladie. J'en ai un autre, un infirmier, qui est en arythmie cardiaque depuis des mois, depuis quasiment un an, à cause d'un Covid long. Et qui est en très bonne santé, il a 35 ans.
Oui, bien sûr, statistiquement, vous avez raison, il y a des gens qui étaient en parfaite santé, qui ont été victimes du Covid et qui ont des gros soucis, ça existe, bien sûr.
Et là, les Covid longs, ça représente 5 à 10% des cas de Covid quand même, hein. c'est pas rien.
Non, mais tout ce que vous dites est exact. Mais pourquoi vous dites qu'Anthony n'était pas dans la science?
Parce que, je vous dis, il a des arguments, alors il cite des études sans les citer, Et c'est déjà problématique pour quelqu'un qui se dit scientifique. Bon, en même temps, il est ostéopathe et il n'y a aucune étude scientifique qui montre l'efficacité de l'ostéopathie, donc je comprends. Il ne va pas cracher dans la soupe. Mais voilà, ça n'a pas de sens. Quand on parle d'études scientifiques, on met en rapport différentes études qui disent différentes choses, qui viennent à différentes conclusions. Ça s'appelle une méta-analyse. Et c'est grâce à ça qu'on arrive à tirer une conclusion. On ne peut pas tirer des conclusions sur une seule étude.
Vous voulez répondre à Anthony à ce que dit Nicolas ?
Bah, ouais, volontiers. Alors déjà, donc, il dit que j'utilise de la rhétorique, mais finalement, il en utilise tout autant, puisqu'il utilise la théorie du détournement. Moi, quand je vous parle d'acheter une voiture, je vous cite pas le nombre de morts, mais je vous cite potentiellement le nombre de personnes qui ont réussi à aller en vacances jusqu'au Cap d'Agde. Maintenant, je ne suis pas ostéopathe, je suis kinésithérapeute ostéopathe. Donc oui, j'ai un vrai bagage scientifique qui est reconnu. Je n'ai cité, bien évidemment, aucune étude. J'ai juste repris ce qui avait été annoncé juste avant moi sur l'antenne de RTL, je n'ai rien cité venant de mes propres sources.
Donc, voilà. Donc ça vaut rien.
Donc ça vaut rien, tout comme ce que vous êtes en train de me dire, comme vous parlez de votre tante ou de votre copain qui a un copie de long. Ça ne vaut rien.
Non, parce que je peux vous en citer des études.
Oui, mais moi aussi, je peux vous citer.
Il y en a eu plein qui montrent l'efficacité.
Moi aussi, je peux vous parler de toutes les personnes qui autour de moi vont bien. Voilà, c'est pareil, c'est la même chose.
Donc, si on veut parler statistique,
on parle statistique. Maintenant, ben, c'est ce que vous avez fait. C'est pas moi qui l'ai utilisé cet argument, c'est vous. Maintenant, je voudrais juste vous dire une chose. Maintenant, c'est que si on part d'un simple fait, un simple principe, que en étant vacciné, je peux être potentiellement contaminant, même un peu moins. Je veux bien le reconnaître, même un peu moins qu'une personne n'étant pas vaccinée. Pourquoi m'oblige-t-on moi à me vacciner pour m'occuper de personnes qui sont elles vaccinées et qui donc a priori ne risquent rien?
Parce que le vaccin n'est pas une panacée. La panacée n'existe pas. C'est-à-dire un patient qui est vacciné,
oui,
il peut ne pas réagir au vaccin. D'ailleurs, oui, on dit que le vaccin est efficace à 95%. Donc sur 100 patients qui sont vaccinés, vous en avez 5 qui n'ont pas réagi.
Sur le terrain, c'est pas ça. Hein. Ils annonçaient ça au départ pour le vendre. Sur le terrain, c'est pas ça. Hein. Mais oui. Alors voilà,
mais même si c'est moins, du coup, vous avez des patients qui, même vaccinés, ne réagissent pas au vaccin.
D'accord. Donc
vous
maintenant,
devez
faut m'expliquer.
Les d'augmenter les
d'accord
chances de la protection.
Ah, il me laisse pas. Donc maintenant, on va recentrer le débat, puisque le débat aujourd'hui n'était pas sur le vaccin, mais sur le pass sanitaire. Expliquez-moi donc, vis-à-vis des arguments que vous-même venez de m'avancer, l'utilité du pass sanitaire. Moi, je vous dirais, après je vous laisse parler, qu'il est même, contre-productif et même dangereux. Puisqu'on nous dit maintenant que les gens qui sont vaccinés peuvent se permettre d'enlever le masque. D'accord ? Alors qu'en fait, eux-mêmes sont potentiellement des gens qui vont continuer de transmettre le virus. Alors, et on le sait, on ne vaccine jamais pendant une période épidémique, on vaccine avant. Pourquoi ? Parce que sinon, vous favorisez l'apparition des variants. Donc, c'est même contre-productif que de mettre en place ça.
Bon, on va stopper, Anthony, parce qu'on ne peut pas vérifier exactement ce que vous dites.
Anthony,
Nicolas, mais non, mais je ne peux pas vérifier.
Je suis content d'avoir débattu avec vous et c'est très gentil de nous avoir laissé la parole.
Que les vaccins favorisent les variants, vous le dites, on ne peut pas confirmer ce que vous venez de dire. Merci Anthony, merci Nicolas. C'est l'heure du débrief et Laurent Tessier va essayer de remettre l'église au centre du village.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier.
C'est le sujet qui vous a fait réagir ce midi.
L'hypothèse paraissait farfelue il y a encore un an. Elle a pris de l'ampleur au fil des mois.
Oui, Éric Zemmour sera candidat à la présidentielle. La décision est prise selon son entourage.
Le chroniqueur a bien l'intention de se présenter. Selon notre enquête RTL, il aurait déjà une centaine de parrainages.
Charles est un défenseur d'Éric Zemmour. Oui, pour lui, il est un candidat crédible.
Cette candidature, je pense qu'elle peut, séduire beaucoup de personnes en France. Il garde son cap malgré les critiques. Donc il faut lui reconnaître déjà une certaine forme de courage. Il fait de bons bilans, il fait des bons diagnostics.
Un avis que ne partage pas Robert Ménard, le maire de Béziers. Il était l'invité de RTL Midi.
Je crois qu'il va au-delà d'un désastre. Moi, je crois qu'il fait une énorme bêtise, une énorme connerie, une énorme erreur.
Magie d'étudiant à Valenciennes en est aussi persuadé.
Je pense qu'il s'apprête à enfiler un costume qui est peut-être trop grand pour lui. Je pense que sur cette présidentielle, il va se casser les dents. Même du côté des gens qui sont d'accord avec lui, il peut faire peur.
Et dans l'émission, nous allons au-delà de simples témoignages. Nous permettons à chacune et chacun de donner un avis bien tranché.
Abdelatif qui est commerçant. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Que vous inspire la possible candidature Zemmour ?
Rien.
Tant pis, l'équipe des auditeurs a la parole, sinon c'est agrandi cette saison. Musique Damien Béchiot, notre réalisateur. Le tombeur de Boulogne-Billancourt, la mèche rebelle de la rédaction de RTL, représentant des jeunes de 20 ans et de la génération TikTok, l'homme qui publie des vidéos sur Instagram plus vite que son ombre.
Nous sommes avec Olivier, je pense Olivier c'est Monsieur Facebook, hein. Vous le savez, cette saison, nous en sommes à son quatrième jour, il est toujours là.
Il est toujours là, donc affaire à suivre, mais Olivier, eh bien, reste lui-même et complimente le maître de la mi-journée.
Merci Pascal pour les compliments.
Ah, c'est trop beau, il sait déjà répondre notre Monsieur Facebook, mais quand même, chers amis en régie...
Le faillot.
Voilà, aujourd'hui, nous vivons aussi un moment important.
Mais on ne l'a pas fait d'ailleurs, le topless.
Dommage. Et c'est vrai qu'une actualité a retenu notre attention.
C'est la journée mondiale du topless. Je ne sais pas si vous êtes concerné, Julien.
Ben
si
regardez.
Vous faites du topless.
Est-ce qu'à votre avis, je suis concerné? Voilà, je vous montre.
Et oui, la radio est désormais filmée. Julien Courbet a préféré réagir à votre tenue du jour, Pascal.
Vous avez vu qu'il a une tenue d'Eddie Barclay, lui, en ce moment, depuis quelques jours. Je ne sais pas ce qu'il fait avec ses costumes blancs, mais...
C'est l'effet.
Bah vous avez l'âge, comme bon. Ça, c'est différent.
Allez. Et permettez-moi d'avoir de fortes pensées pour tous les supporters du Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé va-t-il partir au Real Madrid? Pendant longtemps, vous avez dû vous dire...
Les super copains?
Oui.
Et rien ne nous séparera jamais.
Bah ça on sait pas, mais aujourd'hui certains préfèrent dire à l'attaquant français...
Pars très loin et ne reviens jamais.
Oh c'est beau le Roi Lion. Allez, le débrief pour aujourd'hui c'est terminé. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, n'oubliez jamais.
C'est l'histoire.
Vous savez, la voix que vous avez entendue qui est Scar, en fait, c'était la voix de Jean Pia, qui est décédé il y a 2 ou 3 saisons. Immense acteur. Merci Laurent Tessier à 14h30. C'est Jean-Alphonse Richard. Rendez-vous demain.